France Inter.
Bonjour à tous, c'est le milliardaire préféré des journalistes.
Je reçois un mail de Xavier Niel. Il me demande quelle est votre situation financière. Je réponds qu'on est à moins de 300 000 euros. Et il me répond, pas de problème, je couvre, vous aurez les fonds dans les heures qui viennent.
Sauveur du journal Le Monde en 2010, il finance désormais une multitude de médias. Xavier Niel, le patron du géant des télécoms Iliad Free, qui aime se présenter comme le Robin des Bois des consommateurs.
On rend du pouvoir d'achat à tous les Français. Donc si aujourd'hui, je vous le redis, votre facture elle est supérieure pour la partie service à 19,99€, vous êtes des pigeons et vous le savez.
Une fortune évaluée à 28 milliards d'euros, il vient de grimper à la 7e place des familles les plus riches de France, selon le magazine Challenge. Alors, comment en est-il arrivé là? Son parcours commence dans le Minitel Rose et les sex shops, avec des méthodes parfois très limites.
L'ensemble du piratage, on l'a évalué à plus d'un million de francs de l'époque. C'est les premiers millions qui sont difficiles à gagner. Vous débrouillez pour les trouver. La fin a justifié les moyens.
Condamné pour recel d'abus de biens sociaux dans les années 2000, il passe un mois à la prison de la santé. Aujourd'hui, Xavier Niel cultive une image de patron cool et moderne, tout en ayant l'oreille du pouvoir. En pleine crise des gilets jaunes, il prend la défense d'Emmanuel Macron.
Je crois qu'on a un super président qui est capable d'amener des choses, de réformer la France.
Certains lui prêtent aujourd'hui un destin politique parce que la France, Xavier Niel, lui aussi, il veut la réformer.
Moi, ce que j'ai envie, c'est que justement cet ascenseur, ce putain d'ascenseur social, fonctionne et marche et que ça puisse exister pour tout le monde.
Incubateur de start-up, ferme du futur et même club de football, Xavier Niel est partout et il n'hésite pas non plus à faire le show.
Il arrive du fond de la salle sous les applaudissements et monte sur la scène de l'Olympia avec une promesse.
Comment devenir milliardaire en...
Drôle, mégalo, Xavier Niel joue avec son image, chemise blanche et micro à la main.
Pour devenir milliardaire, allez en prison.
Pour devenir milliardaire, aller en prison, alors qui est vraiment Xavier Niel? Comment a-t-il bâti sa fortune et quelles sont ses méthodes? Pour Révélation, Maxime Tellier a mené l'enquête.
Révélation, le magazine de la cellule Investigation de Radio France, Benoît Colombat.
La Muette, Boulainvilliers.
Et cette enquête, eh bien, elle commence à quelques centaines de mètres de la maison de la radio, où on vous retrouve, Maxime Tellier.
Oui, je suis dans l'un des quartiers les plus chics de Paris, La Muette, dans le 16e arrondissement. Et c'est dans l'une de ces rues cossues que vit Xavier Niel avec sa compagne Delphine Arnault, directrice générale de Dior et fille de l'un des hommes les plus riches de France et du monde, Bernard Arnault, le patron de LVMH. Xavier Niel habite un hôtel particulier de 800 mètres carrés, acheté 11 millions d'euros, dans un style inspiré d'une aile du château de Versailles, le Grand Trianon. Avant cela, il vivait à 20 minutes à pied d'ici, Villa Montmorency, c'est la résidence ultra sécurisée préférée des célébrités et des milliardaires où vivent notamment Vincent Bolloré, Arnaud Lagardère ou encore Nicolas Sarkozy.
Voilà, alors par la magie de la radio, vous êtes de retour avec nous en studio, Maxime Tellier. Xavier Niel fait partie aujourd'hui du Gotha des hommes d'affaires. On va donc revenir sur son parcours. Mais d'abord, au-delà des télécoms, ce qui frappe et qui est peu connu du grand public, c'est son empire immobilier.
Oui, depuis de nombreuses années, Xavier Niel, 58 ans aujourd'hui, investit dans la pierre et pas n'importe laquelle. Écoutez Alix Couture, elle est journaliste à Challenge et elle a recensé l'impressionnant patrimoine immobilier de Xavier Niel.
Au centre de Paris, l'hôtel Lambert sur l'île Saint-Louis, qu'il a racheté en 2022 pour 200 millions d'euros. Juste à côté, l'hôtel Coulanges, racheté en 2015, place des Vosges. Il y a aussi, à 5 minutes à pied, la villa Mazarin, un hôtel 4 étoiles, racheté pour 25 millions d'euros. Plus à l'ouest de Paris, le mythique hôtel Gulbenkian, avenue d'Iéna, acheté pour 45 millions d'euros en 2015 pour en créer un club privé select. Dans ces hôtels particuliers, on peut aussi mentionner l'hôtel de Beaufremont, dans le 7e, c'est l'ancienne ambassade d'Autriche, racheté pour 92 millions d'euros aux héritiers de Givenchy, puisque c'était une des résidences emblématiques d'Hubert de Givenchy.
Mais la liste est impressionnante et Xavier Niel ne se contente pas d'acheter.
Effectivement, un peu à la manière d'un promoteur, il effectue de nombreuses reventes.
En 2010, il avait racheté 3 immeubles haussmanniens avenue Foch pour 84 millions d'euros. Des immeubles en fait qu'il a revendus à la découpe en 30 appartements. Des résidences d'ambassadeurs qui ont été revendues entre 12 et 15 000 euros le mètre carré.
Et Xavier Niel rachète également des immeubles de bureaux, un ancien bâtiment des postes dans le 15e arrondissement de Paris et des tours en banlieue comme à Ivry-sur-Seine, Puteaux ou encore Levallois.
Et il est également propriétaire de palaces.
Oui, il possède notamment un hôtel de luxe à Courchevel, l'une de ses stations de ski préférées.
Il a racheté le 5 étoiles L'Apogée, situé au sommet de la station et au pied des pistes. Donc c'est un hôtel de 53 chambres. Il en a fait un projet de 100 millions d'euros. Donc ce qui lui rapporte, c'est surtout l'exploitation de l'hôtel qui lui permet un revenu récurrent. Et ensuite, il y a la plus-value s'il revend.
Et pour passer une nuit dans cet hôtel, il faut compter entre 1500 et près de 30 000 euros la nuit.
Parce qu'il n'est pas vraiment à la portée de toutes les bourses. Et ça va plus loin, Maxime, puisque Xavier Niel est également le principal actionnaire du géant mondial de l'immobilier commercial.
Oui, il s'agit du français Unibail Rodamco Westfield, qui détient des centres commerciaux haut de gamme partout dans le monde. Le Carrousel du Louvre ou les Halles à Paris, c'est lui. La Tour Triangle, le dernier gratte-ciel de la capitale actuellement en construction, c'est lui aussi. Xavier Niel détient 25% des actions du groupe, ce qui représente 2 milliards d'euros.
Une partie importante de sa fortune, au-delà des télécoms, Xavier Niel l'a fait donc fructifier dans l'immobilier, on l'a bien compris. Maintenant, essayons de comprendre comment il en est arrivé là. Et pour ça, eh bien, il faut revenir à ses débuts, Maxime.
Oui, tout commence à Créteil, là où il grandit, près de Paris. Sa mère est comptable, son père est juriste. Lui est passionné par l'informatique, mais aussi par l'exploration des catacombes de Paris. Il commence très vite à travailler, il arrête ses études à 19 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il est recruté par Marc Bell, qui dirige une entreprise d'informatique.
J'ai effectivement des photos de Xavier dans les catacombes, avec mon frère, ouais. Et mon frère, l'ayant rencontré, l'a embauché. Donc il a été embauché parce qu'on a eu besoin de développer un concept d'appel téléphonique automatique, c'est-à-dire une machine qui puisse appeler simultanément des centaines et des centaines de personnes. Et c'est dans ce cadre-là que Xavier a été embauché pour développer le logiciel qui allait avec.
Et rapidement, Xavier Niel se met à son compte et se lance dans un secteur alors en plein boom, le Minitel, ancêtre d'Internet. Et il n'est pas le seul, hein. Louis Roncin flaire lui aussi le très bon filon à l'époque.
France Télécom avait fait des tests, on prévoyait de faire des services d'information, de prévision météo, de relevé de compte bancaire, de petites annonces. Mais personne n'avait prévu les messageries roses. Et en ouvrant les services, les premières messageries qui ont eu lieu ont rencontré un succès considérable. Si bien que dans les années 86-87, plus de la moitié du trafic, c'était sur les messageries roses.
C'était donc la grande époque du Minitel rose, comme on a appelé cela. Et Louis Roncin devient millionnaire en lançant notamment la messagerie érotique 3615 Hula. Mais il trouve sur son chemin un redoutable concurrent en la personne de Xavier Niel.
On regardait les messages échangés. On voyait un pseudo intéressant, Virginie, 27 ans, seule ce soir. Et elle disait à tout le monde, viens sur 3615 XYZ, c'est beaucoup mieux, j'y suis en permanence, tu pourras me retrouver. Et elle balançait ça à tous les types qui étaient sur la liste. Et effectivement, il y en a certains qui décrochaient et qui partaient. Et puis on regarde sur le service, et c'était un service qui appartenait à Xavier Niel. Dans un premier temps, j'ai contacté Xavier Niel en disant « Mais tu dois pas faire ça, parce qu'on ne doit pas pénétrer sur les services pour détourner la clientèle. » Et je lui ai proposé d'ailleurs de déjeuner ensemble pour en parler. Bon, il a été très sympathique, ça s'est très bien passé, mais en fait, il n'a tenu aucun compte. Il a continué. L'ensemble du piratage, on l'a évalué à plus d'un million de francs de l'époque. C'est les premiers millions qui sont difficiles à gagner. Et vous débrouillez pour les trouver. Alors la méthode de Xavier Niel s'y prit comme ça.
Ouais, donc Xavier Niel continue de pirater la clientèle de la concurrence et qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Eh bien, Louis Roncin dépose plainte avec d'autres acteurs du secteur et Xavier Niel sera finalement condamné. Et il faut dire qu'à l'époque, il est prêt à aller très loin pour gagner de l'argent en lançant par exemple un annuaire inversé sur le 3617.
Pour retrouver les coordonnées d'une personne sur la France entière à partir de son simple nom, tapez 3617 ANU, annuaire inversé par Minitel.
C'est en fait Louis Roncin qui, le premier, a eu cette idée d'annuaire inversé. Mais il fallait d'abord avoir l'accord de France Télécom avant de récupérer les numéros de téléphone des Français. Et Xavier Niel n'a pas eu ses scrupules.
Xavier Niel a copié les fichiers sans demander les droits. Et il a fait un piratage de fichiers de France Télécom. Mais comme France Télécom s'est mal débrouillé juridiquement, lui a fait un procès qui a duré 2 ans et a été débouté, et c'est seulement en appel 3 ans après que France Télécom a eu gain de cause. Mais à l'époque, Xavier Niel avait gagné tellement d'argent et le site avait tellement de succès que Xavier Niel a négocié un accord avec France Télécom et ça s'est bien terminé. On est obligé de dire bravo l'artiste avec un peu de recul. Mais c'est quand même pas une méthode très recommandable.
Oui, donc là, il ne s'agit pas d'un piratage de clients, mais d'une captation de données.
Oui, et j'ai trouvé encore un autre exemple de procédé très limite utilisé par Xavier Niel. Dans les années 90, il avait conçu un programme informatique pour forcer les clients de ses services Minitel à rester connectés. Tout ça pour gagner plus d'argent. J'ai retrouvé le commissaire de police qui a enquêté à l'époque sur cette affaire. Il a accepté de me raconter à condition de rester dans l'ombre. Nous avons donc fait lire son témoignage.
C'était une ferme au milieu de la campagne, à Courtenay, dans le Loiret. On a trouvé quelques Minitel qui appartenaient à Xavier Niel. Ces Minitel pirataient les lignes des clients en les obligeant à rester connectés. À cette époque, les clients payaient en fonction de la durée de connexion et les Minitel restaient parfois connectés toute la nuit. La facture était astronomique. On l'a interpellé et placé en garde à vue et ses avocats ont expliqué que Xavier Niel n'était pas au courant.
Et cette fois-là, Xavier Niel ne sera finalement pas condamné.
Et ce sont ces talents, en quelque sorte, de pirates informatiques qui vont attirer très tôt l'attention des services de renseignement.
Oui, en l'occurrence de la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, l'ancêtre de l'actuelle DGSI. Dans les années 80, face à la menace soviétique, les services cherchent alors à recruter des hackers. Et Xavier Niel est repéré pour avoir piraté et tenté de revendre sous le manteau des décodeurs Canal+. Marc Bell a été le témoin d'un coup assez spectaculaire.
Il venait de pirater la base des téléphones de voiture de tous les ministres. Donc via un piratage de la ligne Transpac, cette communication via les Minitel, hein, où on attaquait des bases de données. Et j'arrive à ce moment-là, et voilà, il y avait toute la liste des téléphones de voiture des ministres qui étaient sortis. C'était la fierté d'un développeur qui arrive à percer des mystères et c'était mal protégé. Et puis, il faut trouver la faille de sécurité. Donc, ça fait partie du bon développeur, c'est-à-dire de pouvoir se dire « je rentre dans une base de données par un truc qui n'a peut-être pas été prévu, mais qui a été mal fait. Donc, je m'introduis et je récupère des données. »
Donc si je comprends bien, Xavier Niel a eu accès au téléphone des ministres de l'époque ?
Oui, les numéros de téléphone. Hein. La DST lui aurait demandé de pirater les téléphones officiels, dont celui du président de l'époque, François Mitterrand, pour montrer au pouvoir l'étendue des failles de sécurité qui pouvaient exister, et donc le besoin urgent d'agir.
Et dans le même temps, Maxime, Xavier Niel mène une autre carrière dans un secteur plutôt sulfureux.
Oui, via un ami commun, il rencontre un certain Fernand Develter, qui gère des sex shops à Paris. Les sex shops, c'est le meilleur endroit pour faire de la publicité pour le Minitel Rose, on s'en doute. Xavier Niel devient donc l'associé de Fernand Develter, comme le raconte le journaliste de Libération Renaud Lecadre, qui connaît très bien le parcours du milliardaire.
Fernand Develter, au départ, c'était un chargé de pouvoir à la Société Générale, bien plus âgé. Il a dû sentir la jeune pousse qui allait monter. Il a commencé à le prendre sous son épaule, à l'aider à démarrer. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés tous les deux co-actionnaires de Iliad.
Iliad, qui deviendra plus tard la maison mère de l'opérateur de télécom Free. Mais à cette époque-là, le métier d'Iliad, ce sont donc les sex shops, un secteur qui rapporte beaucoup d'argent à Xavier Niel.
Il pense que c'est un secteur où il y a beaucoup de cash, et comme il en avait énormément besoin à l'époque, par exemple au New Sex Paradise, il tirait 15 000 euros par mois, en liquide, en espèces, parce que c'était une industrie non déclarée, où tout se payait en cash.
Et la circulation de tout cet argent liquide, tout ce cash, ça va alerter la police.
Oui, Xavier Niel est arrêté chez lui le 25 mai 2004 à 6h du matin. Placé en garde à vue, puis mis en examen, il est présenté au juge d'instruction Renaud Van Ruymbeek qui l'interroge sur ses nombreux transferts d'argent en liquide. Et voici ce que répond Xavier Niel dans le bureau du juge. Nous avons fait lire ses propos.
J'ai vu un double intérêt à investir dans cette activité. Un retour sur investissement intéressant et non fiscalisé, car le fonctionnement reposait sur une comptabilité occulte et des recettes en espèces non déclarées. Cela rapportait de l'argent facile. Ces espèces, utilisables instantanément, ne donnent pas la même sensation de gain que l'argent que je gagne de façon orthodoxe, comme opérateur de télécommunications.
Mais il n'y a pas que des soupçons autour de l'argent liquide, ça va au-delà.
Oui, et vous allez comprendre en écoutant cet extrait du journal de 20h sur TF1 après l'arrestation de Xavier Niel.
Le PDG du groupe de télécom Iliad, qui contrôle aussi le deuxième fournisseur d'accès à Internet français, Free, a été mis en examen la nuit dernière pour proxénétisme aggravé. Xavier Niel a été écroué. Il est suspecté d'avoir investi dans plusieurs établissements à caractère pornographique qui auraient même servi de couverture à des activités de prostitution.
Donc là, il est question de sex shop qui aurait pu servir de couverture à de la prostitution ?
Oui, et sur ce point, écoutez à nouveau Renaud Lecadre.
Par exemple, New Sex Paradise, dont l'intitulé dit bien à peu près le genre d'activité. Normalement, les gentes dames ne font que des prestations visuelles, mais il y avait parfois aussi des finitions manuelles, d'où le proxénétisme.
Et Xavier Niel va passer un mois en détention provisoire à la prison de la Santé à Paris. Je précise qu'il bénéficie finalement d'un non-lieu pour l'accusation de proxénétisme, mais il sera condamné pour recel d'abus de biens sociaux à 2 ans de prison avec sursis et 250 000 euros d'amende.
France Inter. Révélation. Benoît Colombat.
Et malgré ses déboires judiciaires, Maxime Tellier, Xavier Niel va poursuivre son ascension dans le monde des télécoms et d'Internet.
Oui, il fait partie des pionniers du secteur en France. Dans les années 90, il lance le premier fournisseur d'accès à Internet pour le grand public, qui s'appelle WorldNet. Via la société Iliad, dont il a racheté toutes les parts, il lance aussi l'opérateur Free. Et en 2002, il réalise l'un de ses plus beaux coups avec la Freebox, un seul appareil qui donne accès à la fois à Internet, à la télévision et au téléphone, et tout ça à prix cassé, 30 euros par mois. La concurrence est abasourdie, comme l'américain AOL, leader du marché à l'époque. Écoutez la réaction de son patron français.
Moi, c'est pas parce que quelqu'un saute d'une falaise que je dois forcément le suivre.
Et c'est finalement AOL qui disparaîtra du marché français quelques années plus tard, tandis que Free poursuit son ascension.
Jusqu'à la consécration, l'arrivée de Free dans la téléphonie mobile.
Oui, Xavier Niel obtient le Graal en 2012. Il fait irruption dans le précaré des opérateurs historiques SFR, Bouygues Télécom et Orange. L'ancien PDG d'Orange, Stéphane Richard, s'en souvient parfaitement.
Il est arrivé dans le mobile avec des offres complètement disruptives. Hein. Vous vous souvenez des forfaits qui étaient à l'époque à la moitié des prix qui étaient pratiqués. Puis il avait son fameux forfait à 2 euros par mois. Donc il a cassé la porcelaine quand même quand il est rentré sur ce marché. Donc il en a adopté les codes d'un certain point de vue. Oui, si on considère que la concurrence entre les opérateurs, surtout depuis 2012, elle est quand même très forte et très brutale. Quand le taux d'équipement est très élevé, ce qui est le cas aujourd'hui, je parle du mobile, hein, on a plus de 100% de taux d'équipement de mobile en France, le sport, ça consiste à essayer de piquer les clients de l'autre.
Xavier Niel a cassé la porcelaine, dit Stéphane Richard, des prix cassés par rapport au marché, mais pas seulement.
Oui, Xavier Niel adopte également une posture hyper agressive vis-à-vis de ses concurrents, comme lors de cette conférence de presse le 10 janvier 2012.
On vous presse comme des citrons. On pousse à bout le système. Donc surtout, vous avez oublié le forfait illimité SMS, vous allez vous faire défoncer, c'est la mort. Je vais vous dire quelque chose qui est super simple. Vous regardez votre facture quand vous rentrez chez vous. Si pour la partie service de votre abonnement, vous payez plus de 19,99 et que vous n'appelez pas votre opérateur ou que vous ne venez pas chez Free, les pigeons, c'est vous et vous le savez maintenant.
Et ce jour-là, Xavier Niel, décidément très provocateur, s'en prend même à l'État.
L'État s'est entendu avec les 3 opérateurs monopolistiques de ce pays, pour faire quelque chose, un forfait RSA, que l'on appelle, nous, en interne, le forfait raquette super arnaque. C'est-à-dire, plus vous êtes pauvre, plus je vous en mets dans la tête. Moins vous avez de moyens, plus je vous vends des choses chères. C'est franchement scandaleux.
Bon, et à l'époque, ses concurrents, comment ils réagissent ?
Alors, pas très bien, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, l'ancien PDG d'Orange, Stéphane Richard.
Je pense que c'est allé trop loin. C'était pas la peine d'insulter tous ceux qui étaient là. Parce que, vous savez, chez Bouygues Télécom, chez SFR, ou a fortiori chez Orange, il y a aussi beaucoup de personnes, de salariés, des techniciens, des vendeurs, qui sont des gens dévoués à leur entreprise, dévoués à leurs clients, compétents. Et c'était pas la peine de les insulter et de les faire passer pour des escrocs. Je crois que c'était vraiment totalement inutile. On a eu beaucoup d'incivilités, par exemple, ou d'insultes dans les boutiques. À la suite de cette conférence de presse, il y a eu vraiment des excès que je condamne. Tout le monde se souvient d'une vidéo qui avait été publiée où les opérateurs étaient comparés aux généraux nazis autour de Hitler en cabinet de guerre face à l'arrivée de Free. Bon, tout ça, c'était quand même franchement excessif, voire scandaleux.
Et la justice a aussi considéré qu'il avait dépassé les limites. Xavier Niel est condamné à payer 40 millions d'euros pour avoir employé le mot « pigeon » à propos des clients de ses concurrents.
Bien, alors on va s'arrêter là pour le moment, mais surtout restez avec nous. Dans un instant, on va voir comment Xavier Niel est devenu un acteur incontournable dans le monde des médias. A place in the city, a chair in the bed. I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil. Make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, or oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you. And all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kissed for hours straight, well baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? With me when I'm out with my friends, I stare at the painted faces that talk current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat when in the light down, baby, so bright I face reality. I try. Let whatever has to pass through me pass through. But this is staying a while. I know it might not let me go. Empty and bay in the back garden, blow our pupils up. We kiss for hours straight. Well, baby, what was that? This is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? What was that? La néo-zélandaise Lorde, alias Ella Yelich O'Connor, extrait de son dernier album Virgin.
France Inter. Révélation. Benoît Colomba.
Et retour à notre enquête sur l'homme d'affaires Xavier Niel. On a vu comment il avait construit son ascension du Minitel Rose au Télécom. Mais Maxime Tellier, l'homme d'affaires est également devenu l'un des grands propriétaires de médias en France.
Oui, au même titre que Vincent Bolloré, Bernard Arnault ou encore Martin Bouygues, Xavier Niel fait aujourd'hui partie intégrante de ce club très fermé. Et c'est un épisode bien précis qui l'a convaincu que les médias étaient un secteur stratégique.
C'est-à-dire ?
Eh bien, c'est son incarcération d'un mois à la prison de la santé qu'on évoquait tout à l'heure et surtout la médiatisation par le 20h de TF1. TF1, il faut le rappeler, appartient à Bouygues, qui est son concurrent dans les télécoms. Et ça, Xavier Niel l'a évidemment très bien en tête. Et il va donc investir dans de nombreux médias et notamment sur Internet, auprès par exemple du site d'investigation satirique Bakchich qu'a dirigé Nicolas Beau.
Je reçois un mail de Xavier Niel. Votre site est rafraîchissant, réjouissant, voyons-nous. Deux jours après, on se retrouve dans une brasserie. Le déjeuner va durer une heure. Alors, il me demande quelle est votre situation financière. Je réponds qu'on est à moins de 300 000 euros. Et il me répond, pas de problème, je couvre, vous aurez les fonds dans les heures qui viennent.
Xavier Niel versera finalement près de 600 000 euros à Bakchich, qui finira par disparaître. Un investissement qui n'était pas complètement désintéressé, estime aujourd'hui Nicolas Beau. On est alors en 2008, sous la présidence Sarkozy, un moment stratégique, un an, tout juste avant que Xavier Niel obtienne le feu vert des autorités pour se lancer dans le mobile.
Il avait compris le déplacement de l'information dans le monde numérique et dans le monde d'Internet. Il voyait bien que s'il y avait une bagarre avec le gouvernement Fillon et avec Sarkozy, fatalement, toute cette presse d'Internet était celle qui pouvait mobiliser toute une opinion publique qui, elle, était naturellement favorable à la concurrence dans le domaine des télécoms et de la téléphonie. Et donc, ça ne lui a pas échappé. Et donc, je pense qu'il y avait l'utile et l'agréable.
Oui, donc des médias qui peuvent lui être utiles aussi pour ses affaires, ça le met en position de force vis-à-vis du pouvoir, on l'a bien compris. Et en 2010, Xavier Niel franchit une étape importante.
Oui, un monument de la presse écrite traverse alors une crise profonde, le journal Le Monde. Gilles Van Cotte était à l'époque président de la Société des rédacteurs du quotidien.
Il faut bien réaliser qu'en 2010, le groupe Le Monde est au bord de la faillite. Donc on est vraiment très très mal. C'est l'époque où les ventes du journal papier ont commencé depuis une dizaine d'années à baisser et où le numérique n'arrive pas à prendre le relais. Il n'y a quasiment pas de recettes qui viennent du numérique. Donc évidemment, l'entreprise plonge. On réalise qu'on va devoir vendre le groupe à des intérêts économiques. Donc on sait qu'on va être racheté. Voilà.
Et finalement, c'est un trio qui remporte la mise. Mathieu Pigas, Pierre Berger et Xavier Niel, qui investissent 110 millions d'euros pour sauver Le Monde et redresser ses comptes. 15 ans plus tard, ne reste plus que Xavier Niel. Pierre Berger est mort et Mathieu Pigas a revendu quasiment toutes ses parts. Et le président du directoire du groupe Le Monde, Louis Dreyfus, salue le rôle joué par Xavier Niel.
Il ne se comporte pas en propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire, c'est l'actionnaire qui va considérer que parce que vous êtes salarié de son média, vous devez couvrir un sujet qui l'intéresse lui, ou défendre une position qui correspond à ses opinions politiques ou à ses intérêts particuliers. Si je regarde le portefeuille d'investissement de Xavier, je trouve qu'on pourrait nous assimiler à un des appartements témoins. C'est-à-dire l'appartement témoin, c'est celui que vous allez considérer comme exemplaire au regard de votre stratégie.
Oui, un appartement témoin, autrement dit, pour Xavier Niel, Le Monde, c'est aussi une vitrine.
Oui, alors les journalistes du Monde avec qui j'ai échangé confirment qu'il n'y a jamais eu d'intervention directe de Xavier Niel dans l'éditorial. Et sur le plan économique, en 15 ans, le journal a doublé ses ventes et le nombre de ses journalistes. Donc le bilan est très bon. Cela dit, Gilles Van Cotte a aussi bien conscience que Le Monde est un atout dans la manche du milliardaire.
En devenant propriétaire du groupe Le Monde, il s'achetait une honorabilité. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, il nous a raconté qu'avant d'acheter le groupe Le Monde, quand il demandait un rendez-vous dans un ministère, on le faisait attendre 2 mois, 3 mois. À partir du moment où il a racheté le groupe Le Monde, il l'attendait 24 ou 48 heures. Ça lui a ouvert des portes. Nous, ça fait aucun tort. Et lui, ça lui a permis d'avoir ses rendez-vous plus rapidement. Bah, tant mieux pour lui.
Oui, donc Xavier Niel s'achète aussi de l'influence.
Oui, d'autant que l'homme d'affaires possède beaucoup d'autres médias, hein, L'Obs, Télérama, Nice Matin, Courrier International, pour ne citer que ceux-là, et il est aussi présent dans la télévision, rappelle l'historien des médias Alexis Lévrier.
Quand on a un empire aussi large, hein, parce que ça va au-delà du groupe Le Monde, il a des parts notamment dans Media One, donc il produit beaucoup d'émissions dans l'audiovisuel public, le fait même d'avoir ces médias fait qu'il a l'oreille du pouvoir. Et à minima, c'est ça, le prestige et l'influence par le fait même qu'il possède cet empire-là. Donc c'est jamais de manière désintéressée. Ces gens-là ne sont pas des bienfaiteurs, ils ne rachètent jamais des médias uniquement parce qu'ils sont attachés à la liberté de la presse.
Et au sein du journal Le Monde, qu'on évoquait à l'instant, les journalistes ont exigé des garanties d'indépendance.
Oui, ce qui fait qu'en 2024, Xavier Niel a transféré ses actions à un fonds de dotation où siègent notamment les représentants de la rédaction. Ce fonds de dotation ne peut pas revendre Le Monde ou l'Obs sans l'accord des journalistes. Mais il reste des ombres au tableau, estime l'avocat spécialiste en droit des médias, Benoît Huette.
Xavier Niel a d'abord choisi de conserver un contrôle étroit sur la gouvernance de ce fonds de dotation. Il désigne la majeure partie des membres du conseil d'administration et donc il reste indirectement décisionnaire sur toutes les décisions importantes, par exemple la désignation des dirigeants du groupe Le Monde ou la désignation des dirigeants de l'Obs. Et surtout, il y a une faille importante dans la construction de ce fonds de dotation, puisque les statuts du fonds de dotation prévoient expressément que si il arrivait un jour malheur à Xavier Niel et qu'il décédait, l'ensemble de ses droits sur le fonds de dotation serait transmis à ses ayants droit, c'est-à-dire ses héritiers, ses quatre enfants, qui sont encore très jeunes, et qui, par ailleurs, sont, pour deux d'entre eux, également les enfants de la famille Arnault, qui elle-même a des intérêts économiques très substantiels en France, y compris dans la presse.
Oui, donc le risque d'une logique dynastique, selon ce spécialiste du droit de la presse. Alors on l'a dit, Xavier Niel a construit une image de sauveur des médias, plutôt bienveillant à leur égard, avec évidemment des arrière-pensées. Mais ce que vous avez découvert, Maxime Tellier, c'est que ses relations avec la presse n'ont pas toujours été aussi idylliques.
Oui, et notamment durant cette période où il est rattrapé par la justice pour ses investissements dans les sex shops. Renaud Lecadre a suivi son procès en 2006 pour le journal Libération. Et il a dû faire face à 5 plaintes en diffamation.
Oh, il y a même une plainte en diffamation sur le commentaire d'un internaute, sur la version en ligne d'un de mes articles. C'est dire qu'il était procédurier à l'époque, quand même. Il ne supportait pas qu'on revienne là-dessus.
Et je précise que le journaliste a été relaxé à 5 reprises, Xavier Niel condamné pour procédure abusive. Il y a aussi eu le cas de l'arrestation du directeur de la publication de Libération en 2008, Vittorio De Filippis, menotté et fouillé au corps après une plainte à nouveau de Xavier Niel. En 2013, l'homme d'affaires attaque aussi un professeur d'économie qui avait eu le malheur de critiquer Free dans une tribune. Niel accusait l'économiste d'avoir été payé par ses concurrents pour le dénigrer et avait obtenu d'un juge qu'on puisse fouiller dans son ordinateur.
Et ça s'est aussi mal passé avec un journaliste des Échos.
Oui, en l'occurrence Emmanuel Paquette, qui travaille aujourd'hui pour le site L'Informé, dont Xavier Niel est d'ailleurs actionnaire minoritaire. En 2006, il prépare un article potentiellement gênant pour Free, et voilà, selon lui, ce qui s'est passé.
Il a essayé de bloquer le papier en me disant que tout ce que j'écrivais était faux, et donc il m'a menacé effectivement d'un procès avant même que l'article ne sorte, et puis après il est parti dans des insultes. Bon, le papier est paru, il m'a jamais attaqué en justice pour le coup. Je pense que j'ai le droit à nazi et à pédophile.
Et dans son livre « Une sacrée envie de foutre le bordel », Xavier Niel explique qu'il est allé trop loin, et qu'il a changé depuis. Mais pour Emmanuel Paquette, c'est surtout le contexte qui a changé pour lui.
Ça s'est passé jusqu'à, en gros, que Free atteigne une taille suffisamment importante pour ne plus être déstabilisé par France Télécom, Orange aujourd'hui, Bouygues Télécom ou SFR. Maintenant, il est quand même bien inscrit dans le paysage, et je pense qu'il a moins besoin de s'attaquer aux journalistes.
Oui, cela dit, Maxime, il y a quand même une petite phrase qui continue de coller à la peau de Xavier Niel.
Oui, cette phrase, c'est la suivante. « Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard et ensuite, ils me foutent la paix. » Xavier Niel l'aurait prononcée au moment du rachat du Monde, une petite phrase révélée par la journaliste Odile Benyaya Kouider dans un livre paru en 2011. En 2022, Xavier Niel est justement interrogé à ce sujet par une commission d'enquête du Sénat et voilà ce qu'il répond.
J'ai un problème. Je suis sous serment. Et si je vous raconte quelque chose de faux, c'est 5 ans de prison.
Essayez, on verra.
Je suis incroyablement ennuyé parce que je ne sais pas quoi faire. Je n'ai jamais dit cette phrase. Mes détracteurs, mes concurrents me la font toujours porter. Et je vous avouerai, ça me fait tellement plaisir de leur faire plaisir que je suis obligé de continuer de soutenir que je l'ai dit. Alors je suis un peu gêné. Je dis non, mais je l'ai dit en off. Je ne sais plus quoi inventer à chaque fois. Franchement, ça me fait tellement de peine de vous la nier. Donc, ce que je vous propose, et de manière dérogatoire, si ça pouvait ne pas être mis au compte-rendu, cette séance, pour laisser mes détracteurs continuer de le dire.
Vous n'avez pas la dérogation.
Monsieur le rapporteur, ayez un peu de pitié.
Ouais, donc lui, dément avoir prononcé cette phrase. Qui a raison?
Alors écoutez là-dessus, Emmanuel Paquette, qui a aussi écrit une biographie de Xavier Niel avec une consoeur des Échos.
Il nous avait dit qu'il avait lâché cette phrase, mais que c'était pour faire de la provocation, etc. Pour lui, c'était pas une réalité, c'était une espèce de blague, peut-être mal placée, etc. Qui, je pense, c'est devenu un peu son sparadrap du capitaine Haddock, quoi. Ça lui colle au basque et ça lui collera, je pense, très très longtemps au basque. Je pense qu'il a dit cette phrase, que maintenant il a du mal à le reconnaître, et donc il joue sur une forme d'ambiguïté.
Et on comprend pourquoi cette phrase lui fait si mal. Elle casse un peu son image de bienfaiteur des médias.
Oui, et d'ailleurs, visiblement, il n'a toujours pas digéré qu'Odile Benyaya Kouider révèle cette fameuse phrase. Écoutez ce qu'il lui aurait dit, selon la journaliste qui travaille aujourd'hui au Canard Enchaîné.
Un jour, il me dit « Mais pourquoi vous ne m'admirez pas ?» Je suis restée un peu interdite, j'étais très surprise par la question. Je lui dis « Mais enfin, c'est pas notre métier de journaliste de vous admirer. Notre métier, c'est d'analyser, décortiquer et d'expliquer aux lecteurs ou aux auditeurs ce qu'il y a derrière les coulisses. ce n'est pas d'admirer. Donc, ça m'avait amusé, je dois dire.
Et la journaliste se souvient également d'une autre scène qui l'a marquée en 2016.
J'étais allée à l'ARCEP, l'autorité de régulation, et là, on discute. Et puis, la fin, c'est... j'ai regardé les contenus du canard. Ils sont très bons, mais le jour où ils seront mauvais, je rachèterai. C'est plus fort que lui, quoi. Et je crois que par défi, je lui avais répondu « catch me if you can ».
Oui, autrement dit, attrape-moi si tu peux. On rappelle que le Canard Enchaîné fait partie des rares journaux indépendants sans publicité.
Révélation, Benoît Colombat sur France Inter.
Et ce qu'il faut dire aussi, Maxime Tellier, c'est qu'il y a un autre secteur dans lequel Xavier Niel dépense aussi beaucoup d'argent, c'est l'éducation.
Oui, avec son grand projet d'école 42 lancé en 2013 à Paris, qui propose de former au code et à la programmation la jeune génération. L'idée est présentée comme révolutionnaire, il n'y a pas de professeurs et la scolarité est gratuite. Tout est payé par Xavier Niel qui débourse 70 millions d'euros. L'école appartient aujourd'hui à un réseau de 57 campus dans une trentaine de pays.
Mais est-ce que c'est si novateur que ça?
Alors en fait, pas tant que ça. L'idée d'une école sans professeur a été empruntée à une autre école d'informatique, l'Epitech, à Paris. C'est d'ailleurs là que Xavier Niel a recruté tout son état-major pour l'école 42. Une école avec un but bien précis, comme l'analyse aussi la sociologue Camille Dupuis, qui lui a consacré un livre avec François Sarfati, « Gouverné par l'emploi ».
On a à la fois la volonté philanthropique de former des jeunes. Les jeunes étudiants qu'on a vus à l'école 42, qu'on a rencontrés, ils sont tous très reconnaissants d'avoir cette formation gratuite. L'école est magnifique, elle est très bien équipée. Et à côté de cette mission de formation, il y a effectivement l'intégration de la formation dans un système capitaliste qui doit être rentable. C'est donc une politique privée de formation où finalement on a un entrepreneur qui va essayer de se substituer à l'État, de se substituer à l'enseignement supérieur pour finalement développer un nombre de candidats potentiels pour servir les intérêts de son secteur.
Oui, donc ce qu'on comprend, c'est que autour des écoles 42 gravite tout un écosystème contrôlé par Xavier Niel.
Oui, l'incubateur Station F, ouvert en 2017 à Paris et qui soutient des milliers de startups, et puis le fonds d'investissement de Xavier Niel, Kima Venture, dont l'objectif est de dénicher les pépites de demain, même si beaucoup de startups vont rester sur le carreau, comme l'explique sans détour Jean de la Roche-Brochard, le bras droit de Xavier Niel.
Notre objectif, c'est vraiment de faire le plus de deals possible parmi les francophones de la tech partout dans le monde, en se disant bah, parmi eux, on sait qu'on va probablement arriver à choper des 5% qui vont faire des retours énormes. Il y en a 15 qui vont faire des bons retours. Et les 80% restants, bah, financièrement, on peut dire que c'est un échec. Après, sur le long terme, le fait d'accompagner ces entrepreneurs, de les aider à progresser et peut-être de recycler leur apprentissage et leur expérience dans une boîte suivante ou pour remonter une suivante, bah, c'est pas de l'argent perdu, on finance le progrès aussi.
Et son argent, Xavier Niel l'investit aussi dans un club de foot à Créteil ou dans une ferme-école baptisée Hectare. Formation gratuite, là aussi, pour trouver ce qu'il présente comme les entrepreneurs en agriculture de demain. Une école fondée avec l'ancienne conseillère pour l'agriculture auprès d'Emmanuel Macron.
Et là, on aborde la dernière partie de votre enquête, Maxime, les connexions de Xavier Niel avec le pouvoir.
Oui, et c'est par exemple lui qui a présenté Mimi Marchand au couple Macron. Mimi Marchand, c'est la papesse de la presse People, incontournable sur tout ce qui touche à la vie privée des célébrités. Grâce à Xavier Niel, elle a joué un rôle clé auprès du chef de l'État, estime l'historien des médias Alexis Lévrier.
La Ve République est un régime people, un régime où on a besoin d'assumer une vie privée et une vie familiale. Or, au départ, Emmanuel Macron pensait pouvoir s'en passer. Sauf qu'il a rencontré Mimi Marchand par Xavier Niel et il a compris, ce qui a été une des clés de sa victoire, qu'il fallait mettre en scène son couple, que c'était un atout et non pas une faille, et que ça mettait fin à des rumeurs qui circulaient sur lui, et que le People fait partie d'une campagne présidentielle et qu'autant maîtriser les images. Et personne au monde, en tout cas personne en France, ne sait mieux maîtriser les images que Mimi Marchand. C'est en partie sa victoire et c'est donc aussi indirectement celle de Xavier Niel.
Et en juin 2024, c'est encore Xavier Niel, par le biais du groupe de presse Nice Matin, qui rachète Best Image, l'agence photo de Mimi Marchand, alors en difficulté financière.
Et cette proximité avec le pouvoir, elle ne se limite pas à Emmanuel Macron.
Effectivement, et ça on le comprend quand on se replonge dans la période 2007-2012 sous la présidence Sarkozy. C'est à ce moment-là que Xavier Niel obtient l'autorisation de se lancer dans la téléphonie mobile. François Fillon est alors Premier ministre. Écoutez le journaliste d'investigation Marc Andevelde qui écrit sur les coulisses du pouvoir dans sa newsletter The Big Picture.
Un bon businessman, milliardaire, il a développé son jeu de lobbying au sein de la structure de pouvoir du milieu sarkozyste. Ensuite, il a tenu à conserver de bonnes relations, par exemple, avec François Fillon. C'est assez méconnu, mais je l'avais écrit dans Le Grand Manipulateur en 2019. Lors de la campagne présidentielle de 2017, Xavier Niel a fait un chèque de 7 500 € de financement légal de la campagne de François Fillon.
Et au-delà des responsables politiques, Xavier Niel a aussi ses entrées auprès des géants de la tech mondiale.
Oui, et son bras droit, Jean de la Roche-Brochard, peut en témoigner avec son style bien à lui.
La dernière fois, il me dit « Tiens, Jean, t'es là ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit « Bah, passe au bureau ». Et il était avec Daniel Ek, le fondateur de Spotify. On a passé une demi-heure à discuter. Il y a 3 jours, il me dit « Tiens, je te mets en contact avec le fondateur de Lovable. Tu vois, une boîte tech... Nordique qui vient de lever sur une valo à 2 milliards, là. La dernière fois, il me dit « Tiens, il faut que je te présente Tony Fadell, tu vois, le fondateur de Nest qui était installé en France. »
Alors Tony Fadell, c'est surtout un ancien haut dirigeant du géant Apple, l'un des concepteurs de l'iPod et de l'iPhone, rien que ça. Je l'ai appelé en Californie pour savoir ce qu'il pensait justement de Xavier Niel.
Il pense vraiment comme on pense dans la Silicon Valley, donc c'est facile de faire des affaires avec lui. On a la même conception du business. Et avec toutes ces relations politiques, ces connexions dans les médias, moi j'ai envie de travailler en France. Et qui est au centre de tout ce qu'il se passe en France, c'est Xavier.
Et dans le carnet d'adresses de Xavier Niel, il y a aussi Evan Spiegel, le fondateur de Snapchat. Les deux hommes se voient souvent à Paris. Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Xavier Niel était d'ailleurs à son mariage à Venise cet été. Le patron de Telegram, Pavel Durov, quand il est placé en garde à vue à Paris, il donne l'adresse de Xavier Niel. J'ajoute que le milliardaire français est également au conseil d'administration du géant chinois TikTok depuis l'an dernier.
Et ses connexions avec les géants de la tech, il peut aussi les soigner grâce à son empire immobilier.
Oui, il les loge régulièrement dans ses hôtels particuliers dont on a parlé au début de cette émission. Lors de leur passage à Paris, il a également invité la fille de Donald Trump, Ivanka Trump, l'an dernier à l'hôtel Lambert dont il est propriétaire.
Alors on arrive au terme de cette enquête. Derrière cet empire Niel que vous nous avez décrit, Maxime Tellier, il y a aussi la volonté de maîtriser sa communication.
Et ça, on l'a vu lors de la sortie de son livre, une sacrée envie de foutre le bordel qu'on a déjà évoqué. Pour en faire la promotion, il se met en scène à l'Olympia devant 2000 personnes pour leur expliquer, je cite, comment devenir milliardaire en une heure. C'était le 18 septembre 2024 et la chef du service éco de France Info, Isabelle Raymond, était sur place.
Il dit qu'il a toujours rêvé de faire l'Olympia et qu'il assouvit ce rêve en montant sur scène. Il fait cette soirée pour faire lui-même sa propre communication et pour être maître de la com, de la sortie de son livre. Et c'est extrêmement malin parce qu'il y a tout Paris est là. Enfin, en tout cas, les journalistes qui suivent la tech ou les éditorialistes éco sont dans la salle. Et finalement, bah, tout le monde fait un papier en sortant. Donc derrière, bah, ça lui permet d'être extrêmement maître de sa com et donc d'avoir des papiers plus sur le show autour de la sortie de son bouquin que sur le contenu de son bouquin lui-même.
Et pour faire la publicité de sa propre entreprise, Free, Xavier Niel n'hésite décidément jamais à se mettre en scène, comme dans cette vidéo où il incarne le président de la République dans un décor qui ressemble à l'Élysée.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis 2 quinquennats, en tant que président de Free, j'ai maintenu le prix des forfaits mobiles inchangé. Aucun autre opérateur ne peut revendiquer un tel bilan. Liberté, égalité, prix inchangé. Voilà mon combat pour le pouvoir d'achat des Français. Mon ambition est d'être l'opérateur de tous les Français et de vous aider à communiquer sans vous niquer.
Voilà, et au-delà du clin d'œil pour l'instant, Xavier Niel n'a pas affiché d'ambition politique, même s'il laisse entendre que la mairie de Paris pourrait un jour l'intéresser. Je précise enfin que nous avons contacté Xavier Niel. Il nous a renvoyé vers son livre pour trouver les réponses à toutes nos questions.
Merci Maxime Tellier pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site et sur l'appli Radio France. Révélation, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique Alex Olaré-Wajou-Otinois. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro de Révélation. We'll be right back.